Il est 9h22 minutes et ça me fait plaisir de recevoir Sonia Lebel, ministre de la Justice. Bonjour, Madame Lebel.
Bonjour.
Et dans notre série où on essaie de sortir un petit peu de la politique, de parler d'autres choses que des grands dossiers politiques.
On a une autre vie, hein?
Exactement. Essayer de connaître davantage les gens, peut-être de leur goût, de leurs habitudes, ce qu'ils font pendant l'été et pendant la pause. On jasait, on disait un paquet d'affaires. Mais je savais pas que vous étiez amante de la nature à ce point-là. C'est quoi? C'est la soupape de comment dire, de sécurité qui...
Absolument. Ouais. Je pense que c'est ma batterie pour régénérer. C'est une façon de garder un équilibre, puis de rester, de décrocher, puis de rester aussi... En bon français, grounded, hein, parce que c'est facile quand on est dans un univers extrême, puis la politique encore plus, là, un univers extrêmement intellectuel, extrêmement dans les principes, les choses, de perte de vue.
Donc, une fille de bois.
Vraie vie. Ah, oui.
Une vraie fille de
mais
bois.
De nature,
là.
Oui. Ben là, je vais le dire moi-même. Là. Peut-être que les autres diraient, oh mon Dieu, non. Mais oui, une fille de nature, de plein air. Je suis plus active que sportive, je vais le dire comme ça. Là.
Capable de partir le skidoo l'hiver.
De le préparer, même.
Ah oui, OK.
Oh, ben oui.
La chainsaw, pas
absolument,
de problème.
Absolument. Ben oui, j'ai eu ça pas fait il y a deux ans.
Ah oui? Oui. Votre chum vous a donné une chainsaw, Noël.
Étonnamment, j'étais bien heureuse. Oui.
Ah oui?
Oui.
Caroline, c'est le fun, mais c'est des cadeaux auxquels on pense pas quand même pour une fille d'habitude.
Non, c'est pas dans la gamme habituelle. C'est pas quand tu fais sur Google là, la liste des 50 meilleurs cadeaux pour ta blonde, habituellement chainsaw sort pas.
Non, ça arrive pas. Mais chaîne,
le blender
oui.
va sortir avant, oui. mais pas la chainsaw.
Ok, ça le blender c'est un
mais
peu.
C'est pas une bonne idée par exemple. Non, c'est quand même pas une bonne idée.
Mais on vous a connu, on fait bien des blagues, mais on vous a connu à la commission Charbonneau beaucoup. Bon, vous étiez avocate depuis nombre d'années au DPCP entre autres. Autre chose.
Oui.
Qu'est-ce qui vous avait attiré à l'époque à aller à la commission Charbonneau? Je comprends que c'est un défi important. Là. Vous auriez pu dire non à ça. Vous êtes devenu par la suite procureur en chef de la commission Charbonneau. Qu'est-ce qui vous avait amené dans ce type d'enquête-là?
Bien, vous l'avez dit, toute ma vie, moi, j'ai été procureur de la Couronne. Donc, j'ai défendu des dossiers pour l'intérêt public. J'ai travaillé beaucoup aussi comme procureur à la Couronne. Une de mes spécialités, c'est le crime organisé. Donc, les Hells Angels, la mafia, les poursuites. J'ai fait partie, moi, de la première équipe de printemps 2001, à l'époque, avec André Vincent, à l'époque, dès la construction de Gouin, etc. Donc, je faisais partie des premiers pas de ça. Puis France Charbonneau, écoute, quand elle m'a téléphoné pour me demander si j'étais intéressée à participer à l'aventure, puis c'était le même cas que Denis Galland, on faisait partie de deux premiers. C'était pour nous un dossier. Hein. C'est facile à dire après, quand ça nous a amené une notoriété telle qu'on la connaît maintenant, mais si on se replace à l'automne 2011, on savait que ça allait être publicisé, on savait que ça allait être médiatisé, mais une commission d'enquête qui avait connu cette ampleur-là, il y en avait eu peu. Bon, il y a eu Bastarache, je vais dire, mais ça n'a pas pris cette espèce de tournure à la télé-réalité qu'on a connue un peu avec celle-là. Puis pour nous, ben, c'est un dossier. Honnêtement, c'est un dossier puis un beau défi. Ça se limitait exactement à ça.
Ouais, vous avez été étonné de l'ampleur que ça a pris.
Ah, absolument. Ouais, on a été surpris par notre propre notoriété. Je me souviens qu'on est dans le centre-ville, un dîner, moi puis Denis, un lunch, puis il faut dire qu'on rentrait tôt à la commission, puis on en sortait tard. Puis honnêtement, là, on réécoutait pas notre journée à RDI le soir, là, je vais vous le dire. Là. On avait eu assez de la vie live une fois. Ouais. Et on est allé à un moment donné, sorti au centre-ville. On a eu l'occasion d'aller dîner. Puis on est partis tous les deux. Puis on s'est assis. Puis on a réalisé qu'on était sur tous les écrans. Là, et c'est là que ça nous a frappé. Et ça faisait déjà un an et demi que ça roulait. Vous allez dire qu'on était bien naïf dans notre bulle. Là, mais on n'avait aucune... notion de l'impact qu'on avait à l'extérieur de notre ce qu'on faisait dans le fond. Pour nous, c'était une salle de cours comme celle qu'on connaissait, sauf qu'il y avait des caméras. Là,
mais vous êtes-vous rendu compte de l'image que ça a donné de vous jusqu'à un certain point? Vous avez paru comme étant l'avocate
très dure,
décidée, etc. On peut peut-être juste entendre un petit bout. Vous ne l'entendrez pas, vous n'avez pas d'écouteurs, mais si vous mettez les écouteurs, vous allez entendre ceci.
Je pose les questions, M. Zampino.
Oui, mais selon l'analyse que
Monsieur Zampino,
oui.
Je vous demande pas votre analyse, je vais vous poser des questions, si vous permettez.
Oui.
Il y a l'autre extrait aussi, le claquement de doigts Michel Arsenault.
Le 10 secondes qui a collé, le 10 secondes, 10 secondes en 4 ans qui a collé à mon image, effectivement. Ouais. Non plus parce que c'est une portion. C'est un aspect de ma personnalité, naturellement. J'ai pas pu faire des poursuites en crime organisé sans avoir une certaine carapace, une certaine capacité de confronter. Mais c'est après coup que j'ai réalisé que c'est cette portion-là de l'image personnage qui est resté, mais c'est un aspect de ma personnalité. C'est pas toute ma personnalité parce que j'aurais pas d'amis si j'étais de même 24 heures sur 24.
mais compte tenu de l'impact que ça a eu sur votre. Sur l'image que vous. Que, puis, on se connaît quand même parce qu'on se côtoie. Oui. Puis, vous n'avez pas cette image-là dans la vraie vie tous les jours.
Non.
C'est l'image que ça a projeté. Puis, oui. Les gens peuvent penser que vous êtes sévère, puis dur, puis etc. Mais vous n'êtes pas comme ça dans la vie. Hein. Est-ce que vous regrettez ces moments-là qui ont amené justement peut-être une mauvaise perception de. Ben, de votre personnalité.
J'ai regretté ces moments-là dans les deux secondes qui ont suivi mon geste, ouais. Parce que c'est vraiment pas un geste que moi, comme procureur de la Couronne, devant une salle de cour, j'aurais fait ou qui était dans ma façon de faire, même si je peux être assez rigide quand je suis en train de faire un procès, c'est bien parce que la situation le demande, mais pas parce que ça a eu un impact sur mon image, parce que je le savais pas à ce moment-là, ouais. L'impact. Mais c'est sûr que je me suis retrouvée par la suite à dire, bon, cette image-là, je la nie pas, comme je l'ai dit, elle fait partie de ma personnalité, c'est moi. Là. Il y a des fois que je... Oui,
vous êtes capable d'être dur.
Ah oui, ouais. Oh oui. Moi, je veux dire, je vais discuter, puis je vais négocier, puis je vais essayer de m'entendre jusqu'au moment où je m'entends plus. La différence, c'est que j'ai pas peur de monter aux barricades, puis sortir le bâton si c'est nécessaire. Mais c'est jamais mon premier choix, puis ça a jamais été mon premier choix.
Pourquoi vous n'êtes pas retourné au DPCP par la suite? Vous n'avez pas voulu continuer dans cette...
Je suis retournée.
Oui, mais je veux dire, vous avez décidé à un moment donné de prendre le chemin de la politique.
Oui,
c'est parce que ça a été tellement intense à ce moment-là à Commission Charbonneau que vous trouviez ça peut-être un peu moins...
Il y a peut-être une portion de ça, sans blague. J'ai toujours adoré mon travail. Je suis retournée faire des procès devant jury parce qu'au moment où j'ai quitté pour la Commission Charbonneau, moi, je faisais des dossiers de meurtre devant jury.
Oui.
L'année et demie où je suis retournée, j'ai adoré ça. Mais c'est comme si d'avoir quitté le système pendant 4 ans, quand je suis revenue, tout ce que je voyais, c'était les failles. Les difficultés.
Ah bon?
Et est-ce que je changerais? Est-ce que j'améliorerais? Et là, je me retrouvais avec... Et j'ai toujours été au cœur aussi des revendications. J'ai fait partie de l'Association des procureurs pendant 15 ans. Ben, j'appelais ça la théorie du bain. Hein? Quand l'eau se refroidit tranquillement pendant que tu es dans le bain, tu le sens pas. Mais si tu en sors et tu rembarques dedans, tu sens la différence de température. Puis j'ai eu accès peut-être avec la commission à voir d'autres univers, comment ça fonctionnait ailleurs. Et là, je me disais, il y a quelque chose qu'on peut faire de plus, mais c'est rien de défini. Mm-hmm. J'avais pas de projet défini dans ma tête.
Mais quand vous dites, vous voyez les failles, puis là, vous disiez, qu'est-ce que je changerais?
Ouais.
Pour changer les choses dans le système de justice, la meilleure position, c'est encore être ministre de la Justice, non?
Oui, mais c'était pas, je le dis, là, c'était pas clairement défini dans ma tête. C'est arrivé dans la foulée de l'arrêt Jordan aussi, quand je suis retournée, je suis retournée en décembre 2015, tout de suite en juillet 2016, arrêt Jordan. Moi, je suis au cœur des conséquences de l'arrêt Jordan parce que je suis justement dans les dossiers d'assises criminelles, là où les délais sont les pires au niveau de Montréal. Et puis je le disais, là, c'est une réflexion. Et là, j'ai eu une approche. Moi, j'ai pas fait d'approche, là. J'ai pas approché personne. Je me suis donné la permission de retourner dans mes terres, de retourner faire ce que je faisais, puis de décanter tout ça. Parce que oui, la commission, ça a été intense. Puis encore une fois, c'est une bulle qui est en dehors du monde ordinaire.
Oui.
Fait qu'il faut prendre le temps de réaliser que ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire, c'est hors de l'ordinaire. Puis de remettre les pieds. Moi, je suis une fille. Pas pour rien que j'aime ça aller dans le bois. Hein. Je suis une fille de terrain. Je suis une fille qui est terre à terre. Puis là, je trouvais que j'avais vécu là, à 45 000 pieds pendant 4 ans. Il fallait que je reprenne mon souffle. Mais quand l'offre s'est présentée, ben j'ai fait comme « Ah, pourquoi pas? » Effectivement.
Ouais. Hein? Mais il y avait eu plein de rumeurs, entre autres. À un moment donné, on entendait votre nom circuler comme quoi...
Mon nom est circulé partout, j'ai appliqué nulle part.
C'est ça, vous auriez été intéressé, par exemple, à diriger l'UPAC.
Ouais.
À un moment donné, quand il y a eu le renouvellement du mandat de... Est-ce que c'est vrai, ça? Vous,
non,
ça vous
mon nom a circulé beaucoup, probablement parce que j'étais dans la sphère publique et mon profil collait à toutes ces réalités-là. Mais non, je n'ai pas appliqué pour être sur l'UPAC. Je n'ai pas appliqué nulle part pendant cette année et demie-là. Jusqu'au moment où l'équipe de François Legault m'a approché pour me demander si je voulais. Et à l'époque, on voulait que je me présente candidate immédiatement. Pour moi, là, c'était trop de passer du devoir de réserve du procureur de l'État à candidat en politique. Là, je veux dire, là, mon esprit éclatait là, à penser à ça. Donc, après un très long moment de réflexion, ça a pris 8 mois avant que je dise oui. Pour me joindre, 6-8 mois avant que de me joindre à l'équipe. Et j'ai accepté de me joindre à l'équipe comme membre du personnel.
Ouais.
Je me disais là, pour moi, ça me convenait plus de dire, ben j'ai un apport à donner, puis tout ça, mais naturellement, ils m'ont travaillé au corps.
On savait tous que vous alliez vous présenter.
Ouais, tout le monde le savait, sauf moi.
Oui, mais vous auriez dû nous consulter.
Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais probablement que je voulais pas le savoir.
Oui, c'est ça. Pourquoi le droit? Pourquoi vous avez choisi le droit quand vous... Parce que vous, c'est quand même... ça colle à votre personnalité quand même. Là, quand, mais pourquoi le droit et pourquoi au DPCP?
Ah, mon Dieu. On remonte loin. À l'époque, je ne me dirigeais pas du tout en droit. Je me dirigeais en médecine parce que je voulais faire de la médecine légale.
Ah oui? Donc, ah ben, il y a un lien quand même. Là.
Ben oui, donc il y a un lien. Moi, je voulais être coroner. Moi, j'écoutais Quincy dans mon adolescence. Fait que moi, je voulais être Quincy, faire des enquêtes, puis en même temps, la preuve scientifique. Fait que j'aimais beaucoup, beaucoup. Donc, je me dirigeais pas du tout là. Je me dirigeais en médecine. J'ai fait mes sciences pures, d'ailleurs, au cégep pour ça. Et à un moment donné, ben c'est l'époque des orienteurs. Hein. On a fait mon profil. Pis,
ou les désorienteurs.
Ou les désorienteurs. Puis on trouvait probablement que j'argumentais peut-être un peu trop pour aller en médecine, je sais pas, ou que j'allais déranger les patients, j'ai aucune idée. Mais ce qui est ressorti...
Ben, en médecine légale, ils sont durs à déranger,
exactement.
Généralement.
Ben, c'est ça que je leur disais. Moi, je me disais, c'est... ils s'ostinent pas, puis ils me répondent pas. Ça va bien. Puis habituellement, c'est dans ces catégories-là. Quand ça va bien dans ces catégories-là, ça va bien dans le reste.
Ouais.
Mais... de fil en aiguille, je me suis dit, ben peut-être le droit. Je vais aller faire mon droit. Et j'avais pris, en plus, des on peut prendre des options à l'extérieur de son bac. Je prenais des cours de criminologie. Il y avait toujours un lien.
Donc, pour vous, c'était du droit criminel de toute façon?
Ah oui, de toute façon. De toute façon. Et quand j'ai eu à l'université une procureure de la Couronne, Marie-André Trudeau, qui est devenue par la suite mon chef à Montréal, qui est venue donner un cours dans un de mes cours de droit, en droit criminel d'ailleurs, qui a parlé du rôle de procureur de la Couronne. Puis et là, tout de suite, pour moi, c'est devenu une évidence que c'est ça que je voulais faire au niveau de la poursuite. Ça a toujours été peut-être plus dans mon background de faire de la poursuite et de défendre les intérêts de l'État plutôt que de faire de la défense en droit criminel, bien que je respecte le fait...
Vous seriez pas capable de faire de la défense en droit. Pourquoi?
Je sais pas. C'est une question de personnalité, j'imagine. Je sais pas. J'ai toujours été très... mon père a toujours été très, comme on dit en anglais, law and order, le respect des droits. La règle de droit est importante pour moi. T'sais, c'est mon terrain, c'est ton côté, mon côté, je te respecte, tu me respectes. Pour moi, ça a toujours été très important. Peut-être, c'est plus une question de personnalité qu'une question de...
Mais quand on a représenté des victimes, c'est ça que ça fait un procureur de la
absolument,
Couronne.
Absolument,
ça représente des victimes. Ouais. Vous êtes, la voix de la victime devant le tribunal.
Oui.
Est-ce que, par la suite, c'est possible de dire, ben moi, là, je vais lâcher les victimes, puis je vais aller avec... Je vais aller défendre des gens qui ont potentiellement commis des crimes, là.
C'est possible.
Auriez-vous été capable de faire ça dans votre personnalité?
Ça m'a jamais traversé l'esprit, donc j'ai jamais expérimenté. Mais
Parce qu'il y en a qui le font, là.
Il y a des gens qui sont capables de le faire, puis c'est parfait parce que eux, ils vont vraiment sur la règle de droit, puis sur les droits de chacun. Et là-dessus, c'est important, puis je respecte ces gens-là. Moi, je dis pas que j'aurais pas été capable. La question s'est jamais posée. J'étais extrêmement heureuse à la Couronne, extrêmement dans mon élément. J'adorais ce que je faisais. Je m'en ennuie encore, d'ailleurs. Donc, j'ai pas quitté parce que j'étais tannée. J'ai quitté parce que j'avais le goût de relever d'autres défis différents, ce qui est pas le même état d'esprit. Là.
Mm-hmm.
C'est plus de dire non. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Donc, je me suis jamais posé la question est-ce que je serais capable ou non. Absolument pas.
Y a-t-il des offres? Y a-t-il des gens qui... Quand vous avez fini à la commission Charbonneau, par exemple, est-ce qu'il y a des bureaux d'avocats qui vous ont appelé et ont dit... on pourrait être un atout pour nous autres.
C'était clair, c'est un petit milieu, hein, le milieu juridique.
Oui,
puis
tout le monde se connaît de toute façon.
Tout le monde se connaît, puis c'était clair que j'ai pas lancé de ligne à l'eau non plus, puis j'ai pas eu de conversation ou d'attitude qui démontrait que j'étais ouverte à avoir une offre. Donc il y a pas eu d'offre parce qu'il y a pas eu d'ouverture de ma part d'en avoir une. Puis comme procureur de la Couronne, de toute façon, moi ce qui me plaisait beaucoup puis ce qui me comblait, c'est que je jouais aussi le rôle de l'avocat de la défense. Ce que les gens ignorent, c'est qu'on refuse des fois autant de dossiers qu'on en accuse dans nos bureaux. Puis quand on les refuse puis qu'on les porte pas, les accusations, c'est parce qu'à quelque part, on a fait l'exercice, tu sais, un certain exercice.
Est-ce que ça, c'est quelque chose de difficile? Parce qu'on a beaucoup entendu avec tout ce qui s'est passé avec le hashtag MeToo au cours des deux dernières années, là, y a beaucoup de victimes de femmes qui se sont avancées puis qui ont dit « Mais moi, j'ai été victime d'agression sexuelle. » Finalement, ça s'est rendu devant le DPCP, puis dans bien des cas, on a dit, on n'est pas capable d'aller de l'avant parce que les preuves sont pas assez solides, tout ça. Est-ce que ça, c'est difficile?
C'est déchirant. C'est déchirant parce que c'est là la nuance entre les faits qu'on n'est pas l'avocat de la victime, mais qu'on est l'avocat de la société. Et là-dedans, on défend naturellement les intérêts des gens qui ont subi des actes criminels, c'est sûr. Mais comme on n'est pas l'avocat de la victime, et qu'on a aussi, comme je disais tantôt, l'exercice à faire pour voir les droits des accusés, c'est-à-dire Et les droits de l'accusé se situent dans est-ce que j'ai la preuve suffisante? Pas dans est-ce que je crois l'accusé ou non, mais est-ce que j'ai la preuve suffisante comme procureur pour me présenter devant un tribunal? Parce qu'il y a un stigma, hein, quand quelqu'un est accusé au criminel, faut aussi le comprendre. Il y a un stigma, même s'il y a un acquittement au bout du compte, il demeure une tache sur les gens, surtout en matière d'agression sexuelle ou d'abus sexuels. Il demeure quelque chose qui colle à l'individu, même s'il a été acquitté.
Oui.
Donc, il y a une très lourde responsabilité du procureur de bien défendre les intérêts de la victime, mais en même temps, le procureur, lui, c'est la règle de droit. Qui est son maître, qui est son guide, et de faire en sorte aussi de ne pas déposer des accusations qui auront peu de chance ou pas de chance selon les barèmes de succès. Naturellement, on se substitue pas au juge, là, donc on va aller de l'avant dans bien des cas.
Ouais.
Mais c'est déchirant parce que moi, j'en ai eu des dossiers où j'ai dû expliquer à des gens que ça avait rien à voir avec le fait que je les croyais ou non. Puis les gens vont dire, oh oui, c'est un cliché. Si vous la croyez, pourquoi vous accusez pas?
Oui,
mais c'est parce que c'est plus large que ça.
On est-tu capable de gagner la cause?
Puis ça va. Qu'est-ce que ça va faire sur vous aussi? Puis il y a des fois où j'ai eu des discussions avec les victimes en leur disant, écoutez, moi, ça me dérange pas, mais ça va être difficile. Nos chances de succès sont quasi nulles. Ben, qu'en pensez-vous? Puis des fois, souvent, c'est de plein accord qu'on va pas de l'avant aussi, là.
On va s'arrêter un tout petit moment parce qu'il faut aller à la pause commerciale. On va revenir tout de suite après, encore plein d'autres questions.
Avec plaisir.
Si vous n'avez rien de prévu dans les prochaines minutes, on revient tout de suite après la pause. Il est 9h45, on est toujours avec Sonia Lebel, ministre de la Justice. On essaie d'éviter de parler des grands dossiers de politique.
Excellente idée.
Mais on va le faire pareil. Non, c'est pas vrai.
Voilà, ça y est, le piège se referme
sur elle. Exactement, c'est ça.
On l'a attiré avec des bons mots, puis ça y est, prise.
Et voilà, exactement. Non, mais on va parler... Ben là, la politique, pas parler de dossier de politique, mais comment vous trouvez ça, faire de la politique? Est-ce que c'est plus difficile que ce que vous pensiez?
Difficile, non, mais très prenant, très, très envahissant au sens positif du terme, mais on mentionnait tantôt pendant la pause qu'il y a une vie après la politique, je sais pas. Il y en avait une avant, puis c'est d'en garder une pendant, je pense, la clé qui est difficile. Mais moi, ce que je trouve plus difficile en politique, c'est vraiment par rapport à ce que je faisais avant, c'est que la personne devient importante. Hein. Moi, avant, je défendais des dossiers.
Oui.
La commission a été une petite transition là-dedans, là, mais moi, je m'effaçais. Moi, j'existais pas. Là. C'était le dossier, la cause, puis l'accusé, puis la preuve, puis la victime, puis les témoins. Maintenant, la politicienne, la personne, la personnalité est presque a presque autant d'influence que le sujet qu'on discute.
Ouais.
Ça, pour moi, c'est une je dois avouer que c'est une adaptation. Là.
Vous voulez dire que l'aspect médiatique ou communication
très personnalisé de la médiatique. Tu sais, j'ai eu des dossiers très médiatisés avec la colline judiciaire là, qui est bien.
Ouais.
Mais là, on parle du dossier, on parle des enjeux, on parle. Et en politique, on parle aussi des enjeux, mais souvent, la personne qui porte l'enjeu a une influence aussi.
Ouais.
Je sais pas si tu comprends. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Il y a une injection de ma personnalité dans les enjeux auxquels je n'étais pas habituée.
Okay.
Donc,
Et ça, c'est un obstacle? Ou
Non, non, ce n'est pas un obstacle. Tu m'as demandé qu'est-ce que je trouvais différent. Ouais. Pour moi, ça, c'est différent. Puis pour moi, c'est une adaptation. Des fois, j'aimerais bien m'effacer derrière le discours, puis juste porter le dossier, ça, c'est facile pour moi, c'est simple pour moi, c'est naturel pour moi de monter, je suis souvent montée aux barricades, parce que c'est de dire de défendre des dossiers, d'aller devant, puis de parler, puis de dire c'est bon, c'est mauvais, puis tout ça. Puis maintenant, je me rends compte que la façon dont les gens me perçoivent a une influence sur la façon dont ils perçoivent le dossier. Fait que c'est très important aussi pour moi de faire attention parce que les dossiers sont encore, pour moi, les plus importants.
Ouais. Avez-vous un agenda politique? Dans le sens où, est-ce que devenir chef de la CAQ éventuellement, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou si vraiment vous dites...
Non, puis de la même façon que personne ne m'a cru, quand je me suis présentée à la CAQ, j'avais pas l'intention, j'avais pas l'agenda de me présenter comme politicienne ou comme candidate.
Ouais.
J'ai choisi... À la couronne, je faisais la même affaire. Je choisissais mes dossiers parce que ça m'intéressait.
Mmh.
Quand j'ai joint la CAQ, j'aime ça le dire, en 2017, là, on était troisième dans les sondages. Donc, moi, j'ai mis sur la table mes clés de procureur de la couronne. Là. Quand j'ai décidé d'être membre du directrice adjointe du cabinet de François Legault, à ce moment-là, en mars 2017, pour moi, il n'y avait plus de retour en arrière. Là. J'avais fermé la porte sur ma carrière de procureur de la couronne.
À votre avis, vous ne pourriez plus jamais faire ce travail-là? Pourquoi?
Ben, je ne dis pas que c'est impossible, mais surtout pas depuis que je suis devenue ministre de la Justice. C'est encore pire, je m'explique. Un procureur de la Couronne n'a pas le droit de faire de la politique. C'est interdit dans notre loi. J'ai pas le droit de me mêler de rien. Là, maintenant, on peut pas dire que je n'ai pas fait. Là, j'ai été au cœur des débats politiques.
Ah non, c'est sûr.
Ça serait plus dur pour moi de retourner au DPCP dans ce sens-là, parce que ça serait en contravention avec la philosophie de dire qu'un un procureur de la Couronne, ça n'a pas de couleur politique, ça n'a pas de couleur, et on en a parlé dans le cadre des signes religieux, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'opinion. Un procureur, c'est neutre. Ça n'a que le dossier et a pas la personne. Encore une fois, ça vient dire ce que j'ai dit tantôt. On s'efface.
Oui, mais vous savez bien que c'est impossible. Vous ne pouvez pas demander à des avocats de pas avoir d'idées, puis de pas. On peut leur demander de les garder pour eux. Là,
ben,
je comprends
ça. Mais c'est ça. Mais là, je les ai pas gardés.
Non, mais une fois que vous sortez de la politique, vous pensez que le passé fait en sorte que ça vous disqualifie.
Mais ça serait extrêmement, extrêmement difficile et délicat pour moi d'y retourner. Encore une fois, je dis pas que c'est impossible.
Ouais.
Mais quand j'ai pris la décision de me joindre en politique, j'étais consciente que je venais de fermer une porte. Et à l'époque, on était troisième dans les sondages. Donc, j'avais pas de plan de match de devenir ministre de la Justice. On s'entend, là?
Non, je comprends, mais vous êtes toute jeune, là. Je veux dire.
Merci.
Comparé à moi, je veux dire.
Ben, toute chose est à relater.
Exactement, c'est ça, exactement. Mais est-ce que ça veut dire que votre carrière en droit est...
Ah non, j'ai parlé de procureur de la Couronne. C'est bien différent, mais je sais pas. J'ai pas de plan de match, fait que demande-moi pas ce que je vais faire en 2022. J'ai pas de plan de match. Je vais peut-être poursuivre si je considère que j'ai encore une utilité puis que je me sens encore utile. Ouais. Mais la décision est pas prise parce que je suis une personne qui est bien dans le moment présent. Je suis extrêmement dans le moment présent.
Okay.
Donc non, j'ai pas de plan de match. La vie à tous, je ne brigue pas rien d'autre que de faire mon travail le mieux possible présentement, de mener les dossiers que j'ai là, sur ma table, là, les mener le plus loin possible.
On en parlait tout à l'heure, vous êtes une fille de bois jusqu'à un certain point. Là, puis, vos parents, vous ont amené... En fait, vous êtes née à Matane, donc loin de la grande ville, dans le comté de Pascal Bérubé.
Absolument.
il n'était pas député dans le temps.
J'ai déménagé pour être obligée de voter pour lui. Mais j'avais 5 ans, t'as pas trop conscience.
Non,
on fait bien des farces.
Puis après ça, vos parents vous ont amené à Mont-Laurier.
Oui.
Encore une fois, loin de la grande ville.
Oui.
Est-ce que c'est ça qui vous a amené cette espèce d'amour pour la
nature? Peut-être. Moi, autour de moi, là, à Mont-Laurier, c'est la chasse et la pêche, hein. C'est les VTT, la motoneige. C'est un village, c'est une ville qui vit avec ça.
Ça a toujours fait partie de votre
environnement. Oui, mais j'en ai pas fait tant que ça, là, mais je veux dire, ça fait partie de l'environnement. Avec mes amis, j'ai eu contact avec ça. J'ai commencé à chasser avec mon père. On allait prendre une marche dans le bois, puis on chassait la perdrix là, avec mon chien. Mais je vous dirais que c'était plus un prétexte pour aller passer 2 heures à marcher dans le bois parce que ma mère comptait pas là-dessus pour faire le souper. Là.
Vous n'étiez pas bonne chasseuse.
Non, mais encore une fois, le problème, c'est que je parle trop. Puis ça, c'est pas toujours en accord avec le gibier, je me suis rendu compte au fil du temps. Là. D'ailleurs, j'ai appris, mais c'est plus le contact avec la nature. Je dirais que je suis aussi satisfaite à passer 3 heures assis à attendre qu'un chevreuil passe que d'avoir un chevreuil comme tel, parce que c'est de décrocher, puis tu penses à rien d'autre, puis tu peux pas penser à rien d'autre. Puis c'est vraiment, pour moi, là, c'est ma batterie. C'est là que je me régénère, puis que c'est ça, exactement.
Êtes-vous encore chasseuse?
Ah oui, absolument. Oh, oui. Ah là, non, depuis, avec mon chum, là, j'ai ma carte de dindon, l'orignal, le chevreuil. Là, le problème, c'est qu'il manque de temps pour faire autre chose. D'ailleurs,
Vous avez votre carte de dindon, vous avez fait le cours, donc, pour chasser le dindon.
Puis mon plus grand désarroi, c'est que les élections sont à date fixe, puis ça tombe toujours dans la chasse à l'orignal.
Oui, ça, c'est vrai.
Fait que ça, je vais vous dire, là.
Aux 4 ans,
l'année passée, j'ai manqué ma shot parce que justement, on était en plein dans la campagne, dans les élections. Donc, il a fallu que je passe mon tour, mais...
Avez-vous déjà tué?
Oui, avec mon... Ben, OK, je suis pas celle qui a tiré la bête, je dois le préciser.
D'accord.
Parce que François Legault se plaît à dire que c'est moi qui ai tué un orignal, mais tout bon chasseur sait que l'orignal se chasse à deux.
Exactement.
OK? Donc, j'étais avec mon chum, c'est lui qui a tiré, mais tout le reste s'est fait à deux, la recherche, la sortie. Et là, je serais pas trop graphique, mais tout ce que ça prend pour sortir...
Du haut de vos 100 livres, vous avez sorti un orignal de 800 du bois.
Oui, naturellement. Naturellement. Mon apport est beaucoup plus intellectuel, puis en fait ci, fait ceci, parce que quand il me dit aide-moi un peu, puis viens m'aider, là, je me dis c'est pas moi qui a fait un gros contrepoids sur la bête, mais oui. Fait qu'on a tout fait, puis on l'a sorti du bois, puis on l'a amené chez le boucher. Alors, il est excellent en tartare, je dois dire.
Ben, je sais pas, vous auriez dû en amener, on aurait pu vérifier.
Ah, bon, ça y est, voilà. Ça commence.
Est-ce que la politique. J'ai parlé à beaucoup de politiciens, des gens qui disaient, ben moi, je voulais faire de la politique pour changer les choses. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était plus difficile, que ça allait moins vite que ce à quoi je m'attendais. Est-ce que vous avez cette impression-là?
Ben, oui et non. Peut-être parce que je viens de l'appareil gouvernemental. Moi, j'ai été pendant longtemps procureur de la Couronne. C'était des substituts du procureur général. Je connais le ministère de la Justice de la base, de l'intérieur. Ben, peut-être que je suis moins surpris de tout ce que ça prend, puis de tout comme temps, puis de toutes les considérations qu'on doit avoir quand on va faire un pas. Donc, peut-être que mon choc est moins grand que quelqu'un qui n'a pas fait partie de l'appareil gouvernemental avant. Là.
Ouais.
Mais oui, c'est sûr que ça prend du temps, puis on a des intentions, on a des objectifs, on va les rencontrer, mais on vit dans un univers aussi, il y a d'autres lois, il y a d'autres impératifs, puis à chaque fois qu'on fait un pas à gauche, ben, il y a un impact à droite, donc il faut toujours en tenir compte, puis ça, je pense que c'est... Mais pour moi, c'est plus peut-être... moins un écart.
Ça a été un plaisir de vous recevoir. Bien, on aurait continué pendant de longues minutes. Malheureusement,
ça m'a fait plaisir.
Il y a Catherine
merci
Brisson qui est là
et
qui veut venir prendre l'antenne. Merci beaucoup, merci. Sonia Lebel, d'être passée chez nous. Ça a été très intéressant.
Merci, c'était un plaisir.
Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir été là. On se reparle demain matin, 5h30. Au revoir.